dans le mois d'Adar commence. Et à partir de ce moment-là, on commence la collecte de ce qu'on appelle Martsipa Shekel. Martsipa Shekel, ça veut dire le demi-shekel. Ce demi-shekel, c'était donc une obligation pour tout le monde. Tout le monde est à la même enseigne, les riches et les pauvres donnent la même somme, un demi-shekel. Et ce demi-shekel, il abonde une caisse un peu spéciale, qui est la caisse à partir de laquelle on va acheter les korbanot sibour. Alors, c'est une caisse un peu spéciale parce que dans cette caisse, il faut imaginer que le demi-shekel qu'Abraham a mis et le demi-shekel que Yitzhak et le demi-shekel de Yaakov, etc., ils perdent leur lien avec celui qui les a donnés. Ça devient une espèce d'argent anonyme. Pourquoi cela? Parce que quand on a un korban sibour à apporter, et on a un korban sibour, le premier korban sibour qu'on a, c'est le korban tamid, qu'on apporte tous les matins et tous les après-midi, enfin l'après-midi, on apporte un korban, un korban tamid. Ce korban-là, il est apporté au nom du Klal Israël. Et ce qui doit être amené au nom du Klal Israël ne peut pas être amené par l'ensemble des Bnei Israël associés en quelque sorte. Parce que si tous les Bnei Israël donnent un demi-shekel, mais que chacun donne ce demi-shekel, voilà, moi j'ai ma, c'est ma contribution, elle est là, ma contribution, etc. Alors, ce qu'on va acheter avec cet argent-là, ça deviendra un korban shel shutafim, un korban d'associés. C'est-à-dire, l'association, elle peut très bien comprendre tous les membres du clan d'Israël, mais ça n'en devient pas pour autant un korban tzibour. Korban tzibour, c'est un korban qui est apporté au nom d'une entité qui s'appelle clan d'Israël. Et cette entité-là, elle est intemporelle, c'est-à-dire, bien sûr, elle est habitée au fur et à mesure des générations, chaque fois par une nouvelle génération, mais il n'y a pas un Klal Israël de David Ameller, un Klal Israël d'Abaye, de Rava, et un Klal Israël de Rashi, un Klal Israël d'aujourd'hui, quoi, de nous. C'est toujours le même clan d'Israël, simplement il est habité, c'est une structure habitée par les différentes générations au fur et à mesure du temps. Alors, c'est bien connu qu'on amène, hein, voilà, c'est réglé, on amène un demi-shekel. Pourquoi un demi-shekel? Parce que comme ça, chacun a bien conscience qu'il n'est que la moitié et que on fabrique en quelque sorte de la relation élémentaire et donc on commence à fabriquer des liens entre les Bnei Israël par ce moyen-là. Quand on nous énonce ici cette mitzvah de Marsita Shekel, on précise ici combien ça vaut un shekel. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce soit justement à cet endroit-là qu'on nous dit combien vaut un shekel. Alors, le shekel, il est défini. C'est de l'argent. Bon, et on va dire, c'est 10 gouttes d'argent, si vous voulez. Une goutte, elle a la forme d'une céréale. C'est du blé ou de l'orge, etc. Donc, c'est une espèce de petite boule d'argent. Et on prend 20 de ces boules-là. Et ça fait un shekel. Et donc, l'intérêt ici de nous dire ici que le shekel fait 20 petites boules, c'est que quand on divise par 2, 20 divisé par 2, voilà, ça donne 10. Et 10, dans la Torah, c'est une entité. Ça veut dire que bien qu'on ait donné chacun une moitié, la moitié de shekel, mais néanmoins, la part de chacun est une part qui en elle-même est entière, quoi. C'est plutôt 2 fois 1 que 2 fois 1/2, quoi. C'est un demi parce que c'est un demi de shekel, mais il y a quand même cette unité, enfin, cette entité qui est 10. Pourquoi 10? On est dans un système décimal, mais comme dit le, je crois que c'est Sefer Yetzirah qui dit comme ça, 10 joue ce rôle important parce qu'on a 10 doigts. En fait, l'être humain, il est construit sur 10. Et dans la Torah, 10 va jouer un rôle important, même si par ailleurs on a 12 tribus et certains cas, certaines fois, c'est pas un système complètement décimal. Il y a un enseignement du Gaon de Vilna qui se base, enfin, qui explique une phrase du Zohar. Le Zohar, il dit que Kippourim, Yom Kippourim, c'est que Pourim. Le Zohar, il met sur le même plan Yom Kippour et Pourim. Très étonnant, n'est-ce pas? Yom Kippour, c'est Minatora, et Pourim, c'est des Rabbanan, évidemment. Et le Zohar le met sur le même plan, et donc la question qu'on va poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Alors le Gaon explique la chose de la manière suivante. Il dit, tous les Yamim Tovim, c'est ça, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, etc. Yom Tov est caractérisé par le fait que un jour de Yom Tov, c'est un jour qui est Chatsi Lachem, Chatsi c'est-à-dire c'est moitié pour Hachem et moitié pour l'homme. C'est-à-dire moitié pour la prière et l'étude et moitié pour manger, boire et se réjouir. C'est donc vrai pour tous les Yamim Tovim, sauf évidemment pour Yom Kippour, puisque Yom Kippour, il n'y a pas de lachem, puisqu'on ne mange pas, on ne boit pas. Et donc c'est une journée entière consacrée à l'Hachem. Et ce que dit le Zohar, c'est que Kippour doit être considéré comme complété par Pourim, parce qu'à Pourim, c'est au contraire une journée où il y a c'est entièrement consacré à la fête. Entièrement, c'est une journée de bicheté, de shvachmanot, etc. Et même la lecture de la Megillah, c'est une lecture dans laquelle le nom d'Hachem n'apparaît pas. Donc, il faut considérer Yom Kippour et Purim comme faisant une paire. Donc, ils font à eux deux, Kippour et Purim, font à eux deux une entité qui est Chatzi Lachem, Chatzi Hachem. Mais ça ressemble au Marsita Shekel, dans la mesure où c'est non pas 2 demi-journées, si on peut parler comme ça, comme dans tous les Yamim Tovim, c'est Chatzi Lachem et Chatzi Hachem, mais ici c'est une journée entière pour Hachem et une journée entière pour Lachem, pour nous. Donc ça, c'est le lien entre Yom Kippour et Purim. Maintenant, c'est vrai qu'ils se complètent, mais pour se compléter, il faudrait qu'ils aient quelque chose en commun. Qu'est-ce qui lie Yom Kippour et Purim? Bon, c'est facile de dire, c'est bien joli de dire ça se complète parce qu'il y a un il est Koulol Hachem, l'autre il est pas Hachem. Mais qu'est-ce que, par quoi est-ce qu'ils sont liés? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment en commun? Alors, en réalité, ce qu'ils ont en commun, c'est en fait d'être tous les deux un jour de Kabbalat HaTorah. Yom Kippour, c'est une Kabbalat HaTorah. On a l'habitude de penser que Yom Kippour, c'est seulement le jour où Moshe Rabbeinu est revenu avec les deuxièmes tables, où Hachem a donc manifesté qu'il avait pardonné au Bnei Israël. Et il y a des Midrashim qui disent que le jour de Yom Kippour, il y a eu le même son et lumière qu'il y avait eu à Matan Torah. Yom Kippour, c'est vraiment un jour du don de la Torah. Recevoir les Louchot, c'était accompagné des mêmes phénomènes, si vous voulez, que de recevoir les Aseret HaDibrot, c'est-à-dire ce qui était le prélude à recevoir les premières Louchot. Yom Kippour, c'est Kabbalat HaTorah. De quelle Torah est-ce qu'il s'agit? A priori, il s'agit de la Torah, c'est Bichtav. Et Purim, c'est au contraire Kabbalat HaTorah de la Torah Sheba'al Peh. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Purim, c'est Kabbalat HaTorah de Torah Sheba'al Peh? Alors, pour revenir un peu en arrière, quand Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah au Bnei Israël, les Bnei Israël ont accepté la Torah chez Bichtav, Torah écrite. Mais la Torah orale, ils ne voulaient pas l'accepter. Alors, ce n'est pas très clair. Pourquoi ils ne voulaient pas accepter la Torah orale? Pour la raison suivante. C'est-à-dire, on peut expliquer qu'ils ne voulaient pas expliquer, ils voulaient pas accepter la Torah orale, mais ça marcherait mieux sur les secondes louchot que sur les premières. Pourquoi? Pour la raison suivante. Dans les premières louchot, que nous n'avons jamais reçues, puisque Moshe Rabbeinu nous les a brisées, mais dans ces premières louchot, bien entendu, le support avait été donné par Hachem, et la gravure des lettres, puisque les lettres sont gravées de part en part, mais pas simplement que ça traverse, mais c'est lisible des deux côtés. Quand on lisait la Torah chez Bichtav, puisque d'une certaine manière, Aseret HaDibrot, ça peut être considéré comme la Torah écrite. D'accord? C'est un travail que fait Rav Sadia Gaon. Et les Sfardim, ils ont l'habitude, à Shavuot, l'après-midi, de lire ce qu'ils appellent ça, Azarot, je crois que ça s'appelle, et qui sont le. C'est la démonstration qu'a faite Rav Sadia Gaon pour montrer comment on pouvait rattacher toutes les mitzvot au Aseret HaDibrot. Donc, d'une certaine manière, c'est la Torah écrite, ou en tout cas la Torah écrite, l'ensemble des mitzvot de la Torah écrite. Eh bien, quand on lisait cette Torah écrite, si vous voulez, en même temps, on lisait en même temps toute la Torah orale. La Torah qui allait être la Torah orale. C'est-à-dire, elle n'était pas gravée spécialement, mais néanmoins, dans la gravure de la Torah Shebichtav, probablement, c'était agencé de telle sorte qu'en lisant les premières Luchot, on lisait aussi toute la Torah, y compris la Torah orale. Ça veut dire que si on avait reçu les premières Luchot, l'histoire était terminée. Si on les avait reçues, probablement que ce serait allé de pair avec le fait d'entendre les 10 paroles de la bouche d'Hachem. On avait entendu tout ça dans la bouche d'Hachem. Comme on a dit, chaque chose qu'ils ont entendue de la bouche d'Hachem, ça s'est inscrit de façon définitive en eux. Et donc, ça veut dire que toute la Torah était inscrite de nouveau en eux. Elle est de toute manière en nous, la Torah, puisque c'est notre plan. Mais là, en l'occurrence, elle était pas seulement de l'intérieur, mais elle s'est inscrite de l'extérieur en nous. Donc l'histoire aurait été terminée. Et la Torah orale aussi se serait apprise toute seule, sans effort. Alors que dans les deuxièmes Luchot, la gravure est exactement la même. Hachem a dit, je vais écrire sur les deuxièmes ce qu'il y avait écrit sur les premières, sauf que on voyait pas la Torah chez Baalpé. On n'avait que la Torah écrite. Et la Torah chez Baalpé, c'est ce qui est écrit dans la Torah, d'accord? Amelim Batorah. C'est-à-dire, il faut bosser, il faut travailler énormément, et ça, les Bnei Israël n'avaient pas envie de le faire. Ils n'avaient pas envie parce que c'est un travail infini, parce que ça demande de s'y consacrer corps et âme, jour et nuit, etc. Donc, ils n'étaient pas très chauds faire ça. Alors, je ne sais pas très bien le dire. Parce que, d'une certaine manière, ça ne concerne pas les premières loupotes. Mais bon, ils n'ont jamais reçu les premières loupotes. Donc, les Bnei Israël ne voulaient pas recevoir la Torah chez Baalpé. Mais Hachem voulait qu'ils la reçoivent. Donc, il a fait pression. Il leur a mis la contrainte de la fameuse montagne. Il a retourné la montagne au-dessus d'eux, c'est-à-dire il a mis la montagne comme un tonneau, si vous voulez, qu'on mettrait comme si vous voulez faire prisonnière une mouche, vous retournez un verre sur la mouche, vous n'écrasez pas la mouche. La montagne ne les aurait pas écrasés. Mais du coup, leur horizon est borné par la limite de la montagne, comme l'horizon de la mouche en question, il est limité par le verre en question, eh bien, vous allez crever là. Chamtek Kvouratrem, c'est là-bas, sous la montagne, que vous allez mourir et vous serez enterré. Donc Hachem leur a dit, voilà, c'est ça la contrainte, et ils ont accepté ça. Finalement, ils ont accepté. Mais, puisqu'ils avaient accepté sous la contrainte, alors, ils auraient pu faire valoir, ils avaient un joker, les Bnei Israël. Quand Hachem leur dit, pourquoi vous respectez pas la Torah, ils peuvent sortir le joker. On s'est jamais engagé à respecter la Torah. Un engagement sous la contrainte, c'est pas un engagement. Donc, ça s'appelle Mora, ça s'appelle, en fait, on peut faire une déclaration. Les Bnei Israël auraient pu faire une déclaration, désormais, puisque tu nous as contraints, eh bien, nous ne sommes pas vraiment astreints à respecter la Torah. Par conséquent, Hachem n'avait pas le droit de détruire le Beth Amikdash. Il a détruit le Beth Amikdash parce qu'on ne s'est pas construit, on s'est pas conduit comme il le fallait, mais on n'avait pas d'obligation. En tout cas, on ne pouvait pas être sur une obligation morale, mais on ne pouvait pas être considéré comme ayant trahi la pensée divine, quoi, quelque part. Mais les Bnei Israël n'ont jamais fait usage de ce joker. Et puis est arrivée l'histoire de Pourim. Et dans l'histoire de Pourim, les Bnei Israël qui sont à ce moment-là, ils sont en galoute. Ils sont dans le galoute de Paras ou Madaï, les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et les Perses, ce sont des peuples qui ont vaincu les Babyloniens. Bon. Et nous, on n'a pas changé d'endroit. On a été exilés en Babylonie, mais la Babylonie est devenue terrain perse, Mèdes et Perses. Donc, on a seulement changé de monde, de maître, changé de civilisation, etc. Donc, on était confronté à des nouveaux problèmes. Mais un des problèmes fondamentaux qu'on a eu avec eux, c'est que Achashverosh, je crois que c'est Artaxerxès, un peu comme ça, c'est un des noms de ces rois, c'est un antisémite fini. Seulement, c'est un antisémite qui n'osait pas ou qui ne pouvait pas faire les choses tout seul. Alors, il a utilisé Haman, qui lui aussi était un antisémite et qui lui a pris prétexte de quelque chose d'assez étonnant. Il avait obtenu Haman. Que tout le monde se prosterne devant lui. Je ne sais pas si dans l'histoire il existe un personnage qui a obtenu que partout où il a, le monde se couche par terre devant lui. Lui, il a obtenu ça. C'est de la folie, quoi. Et tout le monde le faisait, y compris tous les rabbins, etc. Sauf un bonhomme, Mordechai. Et Mordechai, il était considéré par ses concitoyens comme un provocateur, comme quelqu'un qui mettait en danger le peuple juif avec sa conduite, pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde, etc. Bien entendu, on a le droit de se prosterner devant quelqu'un qui a un pouvoir politique, etc. Seulement le problème avec Aman, quelque chose que Mordechai savait mais que tout le monde ne savait pas. C'est qu'en fait, il portait en médaillon une espèce de petite idole, qui fait que quand on se prosternait devant lui, on se prosternait aussi devant l'idole. Et ça, c'est interdit. Mais ça, semble-t-il, ça avait peut-être échappé aux autres, je ne sais pas exactement. En tout cas, Mordechai, qui l'avait vu, lui, il ne pouvait pas se prosterner. Et donc, il a pris ombrage, ridicule, dans tout système totalitaire qui se respecte. Quand il y a un bonhomme comme ça qui se lève et qui dérange tout le monde, et on le tue, point barre. Bon. Il n'a pas tué Mordechai. C'est marqué, c'est pas son kavod de s'attaquer à un seul juif. Mais c'est son kavod d'être rendu fou par le fait qu'un juif ne se prosterne pas devant lui. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On aurait pu imaginer, bon, il va tuer toute la famille de Mordechai. Non, il tue tout son peuple. Tout le peuple. Il tue un peuple entier. Et il propose ça, en fait, à Ahasvéros. Et Ahasvéros est d'accord. Et quand il propose ça, il achète le peuple juif, en fait. Il propose à Achashverosh, je t'achète le peuple. Il lui propose de l'argent. Mais Achashverosh, qui sait très bien que Haman, en réalité, il lorgne sur le trône, lui, il veut le trône. Parce que lui, Haman, il est le chef des nobles. Achashverosh, c'est un peu. En vérité, il est empereur mais en fait, c'est sa femme qui est l'impératrice. La descendante de Nebuchadnezzar de Nabucodonosor, c'est Vashti, c'est elle. Lui, on dit qu'il est un palefrenier, un coiffeur, il a toutes sortes de petits métiers, je sais pas, c'est des jobs d'été, je sais pas ce qu'il fait, mais il a toutes sortes de petits métiers, et seulement il a séduit la reine, semble-t-il. Et il a réussi à devenir empereur. Donc il est empereur d'un royaume gigantesque, mais il est pas tellement sûr de lui. Il sait très bien que c'est pas lui le qu'il n'est pas de droit. Donc il sait très bien que Aman veut le trône. Donc quand Aman lui donne de l'argent, il dit non non j'ai pas besoin d'argent. J'ai tout ce qu'il faut, tu peux garder l'argent. Il veut pas du tout que Aman ait barre sur lui, en tout cas. Bon, tu peux. Les Chachamim, ils disent que il faut considérer que Aman et Achashverosh, quand ils se rencontrent, c'est un type qui a un tas de sable, donc il ne sait pas quoi faire, et un autre qui a un trou, il ne sait pas comment le combler. Ils se mettent ensemble, le type met son tas de sable pour combler le trou de l'autre. À eux deux, c'est pas bien, c'est tout est lisse. Voilà. Donc voilà, ces deux-là, ils ont un projet en commun. Plus exactement, le projet, c'est le projet d'Aman. Et c'est lui la cheville ouvrière de l'affaire. Seulement, ce qui c'est absolument fondamental, c'est que Ahasvéros, c'est, semble-t-il, un roi, je ne sais pas si c'était vraiment le fait de tous les rois de l'époque, mais ce n'est pas quelqu'un qui veut régner. Il a ses folies, mais il ne va pas s'occuper des affaires. Et donc, son sceau, il l'a donné à Aman. Donc, ça veut dire qu'Aman, qui va prendre des décisions, il va signer ses décisions à Ahasvéros. Quand, par la suite, vous savez bien que Mordechai va prendre la place d'Aman, il va devenir grand vizir à la place d'Aman, Achashverosh va lui donner à lui aussi le sceau. Donc après, à partir de ce moment-là, ce sera Mordechai qui va signer Achashverosh. Et c'est très important de savoir ça, parce que ça va être décisif pour la suite. Donc, il a un projet, il va tuer tous les Juifs, hommes, femmes, enfants, le même jour. Il tire au sort pour savoir quel jour ça va tomber, etc. Donc ça tombe effectivement, 14 Adar. Et donc on envoie les fameuses lettres pour dire aux gens en cachette que ce jour-là, ils peuvent tuer les Juifs. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que les Bnei Israël, ils vont échapper à ça. C'est-à-dire que les Bnei Israël, aujourd'hui on peut facilement trouver les mots pour ça, parce que aujourd'hui on va dire que les Bnei Israël, ils ont à ce moment-là échappé à une solution finale avec zéro mort. Bon. Au XXe siècle, il y a eu une solution finale avec 6 millions de morts. On comprend. Et la solution finale, c'était pas de tuer tous les Juifs le même jour. Aman, lui, voulait tuer tous les Juifs le même jour. Et chez Aman, il était sûr d'avoir des gens à lui un peu partout, dans tout le royaume, parce qu'on n'a pas amené les Juifs à la cour de. On ne les a pas tous ramenés dans la capitale. On va les tuer sur place. Mais qui va les tuer sur place? C'est comme le Hamas, quoi. Ils ont des gens partout. Et les gens disent, non, mais nous, on est. Mais pas du tout. Et qui reçoivent les papiers, on peut tuer les Juifs, on va tuer les Juifs. Et donc, Hachem leur a fait un miracle pareil. Et ce miracle-là, en réalité, il est plus grand que le miracle de la sortie d'Égypte. Parce que sortir d'Égypte, ça voulait sortir de l'esclavage vers la liberté. Mais sortir de l'affaire Aman, c'est sortir de la mort vers la vie. Donc on peut poser la question, pourquoi est-ce qu'on commémore encore aujourd'hui, dans toutes les fêtes partout, toujours Zecher li Yetziat Mitzrayim, il n'y a aucun Zecher de la sortie du Nes de Pourim, sauf le jour de Pourim, mais pas. Alors, on verra après pourquoi on ne fait pas ça. Pourquoi on n'a pas remplacé la sortie d'Égypte par la sortie de la Perse, quoi, d'une certaine manière, ou de la destruction prévue par Aman. Mais c'est un est qui est tellement grand que les Bnei Israël ont été remplis de reconnaissance et ils ont aimé Hachem. Moi, je dis, par amour d'Hachem, ils ont décidé que la Torah Shebaalpeh, ils allaient l'accepter sans contrainte. Donc, ils ont enlevé la contrainte et maintenant, ils pratiquent parce qu'ils veulent bien. OK? Ils ont enlevé la contrainte. Alors, cette histoire de la contrainte, elle, en soi-même, elle pose question dans la mesure où les Bnei Israël, avant le Sinaï, ils ont dit « Naaseh v'nishma ». Ils ont dit « On va faire et on va écouter ». Donc, ils ont accepté la Torah, avant même de la recevoir, mais ils l'ont acceptée complètement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'ils ne voulaient pas et qu'on a dû les contraindre? Alors, il y a des commentaires qui disent qu'ils avaient accepté, mais il y avait lieu de craindre que quand ils vont voir ce fameux son et lumière, là, par le feu, etc., c'était extrêmement impressionnant. Tout le monde a eu peur bleue, probablement. Ensuite, ils ont expérimenté la mort, etc. Peut-être qu'à ce moment-là, ils se sont dit, ah ben non, attention, on veut pas la Torah. Si la Torah, ça implique qu'on va mourir, d'accord, on a ressuscité, mais on n'a pas tellement envie de mourir. Donc, il fallait une contrainte. Alors, du coup, on peut se demander, quand à Pourim, on a enlevé la contrainte, mais on n'avait pas besoin de accepter la Torah. À ce moment-là, quand tu enlèves la contrainte, on se retrouve avec l'Aseh v'Nishma. C'est-à-dire, on a accepté la Torah. Pourquoi? Or, toute cette histoire, elle est construite comment? D'où est-ce qu'on sait que les Bnei Israël ont accepté la Torah chez Baal-Pé à Pourim? Parce que dans la Megillah, c'est marqué qui mouve et qui bloue à Yehudim. Les Israël ont qui mou, c'est-à-dire ils ont pratiqué, ils ont fait tenir, mais qui bloue et ils ont accepté. Qu'est-ce qu'ils avaient accepté? Donc cette acceptation, ça veut dire acceptation sans contrainte. Accepter, ils avaient déjà accepté, mais avec contrainte. Maintenant, ils acceptent sans la contrainte. Mais du coup, on n'a pas besoin de Kabbalah. Il suffit d'enlever la contrainte. Si tu enlèves la contrainte, il revient que les Bnei Israël ont accepté en disant « Naaseh v'nishma », on a accepté. Donc, pourquoi est-ce que c'est marqué qu'ils ont réaccepté? Cette fois-ci sans contrainte. Parce que quand ils ont dit Naaseh v'nishma, ça veut dire on va faire et on va entendre. Mais bon, On veut bien, ça sera de notre fait. Ça veut dire que on ne peut pas considérer qu'on est obligé de le faire. On va faire. OK, mais peut-être il y a des circonstances qui font qu'on n'a pas envie de faire. Maintenant, quand on a dit qu'ils ont réaccepté, ils ont accepté de la même manière que c'était accepté avant par la contrainte. Seulement, il n'y a plus de contrainte, mais c'est le même genre d'acceptation. C'est-à-dire, ils ont accepté quelque chose qui s'impose à eux. On a accepté volontairement quelque chose dont on ne peut plus dire, non, mais aujourd'hui, ça ne me plaît pas. Aujourd'hui, je n'ai pas envie. Aujourd'hui, je ne fais pas bon, fatigué ou bon, j'ai autre chose à faire. Ce n'est pas possible. La Torah, elle s'impose à nous. Et c'est ça qu'ils ont accepté à nous. Seulement quand ils ont accepté, comme je vous ai dit, c'est construit sur qui move qui blue. Seulement il y a un problème. C'est que dans la Megillah, le mot qui blue, il n'est pas écrit entièrement. Il est écrit dans la Megillah, c'est marqué Bekibel. Le vav de la fin, il n'y est pas. Donc, ça veut dire Bekibel, comme si on parlait d'un singulier. Kiblou, c'est un pluriel, Kibel, c'est un singulier. Alors, ça s'appelle un cri-ktiv. Ça veut dire, c'est un mot qu'on ne lit pas comme il est écrit. Et il est écrit d'une certaine manière, et si je lis l'écrit comme il est écrit, ça donne un sens. Si je lis l'écrit comme il est écrit, je lis le Kibel, Kimou, le Kibel. Et si je lis comme on a la tradition qu'il faut lire, Kimou, le Kiblou, alors je lis comme s'il y avait un verbe. Et un Yoshua, il dit que quand il y a un cri-ktiv, c'est considéré comme s'il y avait deux mots. Ça veut dire que je peux faire deux drachot. Normalement, sur un mot, on fait une seule dracha. Et si je dis que c'est ces deux mots, c'est comme s'il y avait le mot kiblou et le mot kibel. Alors, sur le kiblou au pluriel, la dracha, c'est kiblou maché kiblou kvar. Non, kiblou maché kimou et maché kiblou kvar. Mais le kibel, comment est-ce qu'on l'apprend? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors le Midrash dit, ben voilà, c'est ça, le kibel, c'est Moshe. C'est Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah. Et donc, paradoxalement, la Drasha, elle est construite sur le fait que ils ont accepté maintenant à Purim ce que Moshe avait accepté en son temps. D'après la Drasha sur kibel. Alors, cette histoire que Moshe a accepté la Torah, alors, pendant que vous savez, c'est okay, comme ça. À la fin de sa vie, Moshe Rabbeinu a écrit le Sefer Torah. Et il l'a donné à la tribu de Lévi. Il n'a pas donné à la tribu de Lévi parce que la tribu de Lévi, c'était sa tribu à lui. Mais il l'a donné à la tribu de Lévi parce que la tribu de Lévi, c'est la tribu de ceux qui sont en charge d'enseigner, donc d'étudier la Torah et de l'enseigner. Donc c'est normal qu'il l'a mise dans le laboratoire où on étudie et on met en place ce qu'on va enseigner de Torah. Mais ça ne s'est pas passé comme il l'a pensé. Toutes les tribus se sont révoltées. Elles ont dit, mais nous, on veut aussi avoir un Sefer. Il est hors de question qu'il n'y ait qu'un Sefer Torah chez la tribu de Lévi. Et donc, mon cher Abénu a dû écrire un Sefer Torah pour chaque tribu. En plus du Sefer Torah qu'il a écrit et qu'on a mis dans le Aaron, dans l'Aaron, il y avait les deuxièmes loukhot, les brisures des premières et un Sefer Torah. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi est-ce que les tribus n'ont pas accepté que il y ait un seul Sefer Torah qui soit déposé dans la tribu de Lévi? Parce que s'il y avait un Sefer Torah dans la tribu de Lévi, uniquement, ça voudrait dire que les Lévites vont étudier la Torah et ils vont en tirer, par exemple, les halakhot, tels que eux le comprennent, et ils vont sortir et ils vont dire aux autres juifs, ils vont dire, voilà la halakha. C'est comme ça que pratiquent quasiment tous les prêtres de toutes les religions. Il n'y a qu'eux qui ont accès au texte, quand c'est les textes, ou à la magie, quand c'est aux recettes de magie, etc. Et on dit au peuple, tu fais comme ça. Mais Israël, c'est pas question. Nous, on veut participer à l'élaboration, en particulier de la halakha. Donc, on veut discuter sur. On va discuter la Torah chez Balpé. Bien, c'est la même chose. Ici, c'est Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah. Et Chazal disent que c'est un acte de recette de la part de Moshe d'avoir donné la Torah au Bnei Israël. Il aurait pu, lui, faire ce que je viens de décrire pour lui peut faire. C'est-à-dire, en fait, il aurait pu être ce que enfin, beaucoup de gens disent de lui, d'ailleurs, disent qu'il était le législateur. Il aurait pu devenir vraiment le législateur. C'est-à-dire faire les lois et dire au peuple d'Israël, voilà, la loi, c'est comme ça, comme ça et comme ça. Alors, il leur a donné la Torah. Il leur a pas simplement dit les halakhot. Il leur a donné la Torah et les moyens de développer la Torah. Et du coup, ça veut dire que, effectivement, quand les Bnei Israël ont reçu, enfin, quand ils ont décidé d'accepter la Torah, ils ont décidé d'accepter la Torah, mais la Torah, elle est comme, en quelque sorte, donnée à ce moment-là, comme si elle était donnée par Moïse. C'est parce que quand tu acceptes la Torah, parce que sous la contrainte, bon, à certaines manières, c'est comme si on t'imposait, on ne te demande pas ton avis, quoi. Et si on te demande ton avis, là, et comment on peut demander l'avis? C'est parce que Moshe Rabbeinu il a donné la Torah au clan d'Israël. Dans le Bnei Israël, on dit Naaseh Venishma. La Gemara, elle dit qu'ils ont reçu deux couronnes. Une pour Naaseh, une pour Nishma. Donc vous voyez, les Bnei Israël se sont trouvés avec deux couronnes entières, ça veut dire. C'est deux fois un et pas deux fois une demi. Là aussi, c'est deux fois un, chacun a une couronne. Et quand ils ont fait le veau d'or, ils ont perdu la couronne de Naaseh. Puisque Nassé, c'est ce qui se fait par le corps, par les actes, et Nishma, c'est ce qui se fait par le Sefel, par la réflexion.
Donc, ils ont perdu les deux croix, ça?
Pardon?
Ils ont perdu les deux croix?
Non, ils ont perdu le. On a perdu seulement celle du nacé. Et le nacé, c'est ce qui se fait avec le corps, comme on a dit. Et ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que, en disant cela, leur corps est devenu suffisamment propre, suffisamment nettoyer, nettoyer, c'est nettoyer de la zoama. La zoama, c'est une espèce de saleté résiduelle qui vient de la séduction du Nahash avec Rava. Donc, à partir de ce moment-là, il y a chez toutes les femmes quelque chose qui est une espèce de trace du Nahash qui invalide en quelque sorte les Bnei Israël d'une certaine façon. Et ça a disparu au Sinaï. Et quand ils ont dit Naasé, ils ont accepté la Torah, cette Zohama a disparu. Donc qu'est-ce que ça fait que la Zohama a disparu? Ça veut dire que le corps, il est prêt à faire la volonté d'Hachem sans qu'obligatoirement, sans qu'il y soit contraint par le Sechel. De lui-même, le corps va vouloir faire la volonté d'Hachem. Et quand ils vont faire le veau d'or et perdre la couronne du Naasé, ça veut dire que le corps a perdu cette autonomie qu'il avait de pouvoir faire de lui-même la volonté d'Hachem. Il ne pourra pas la faire autrement que par le biais du Nishma, par le biais du Sechel. Mais le Sechel, il ne va pas toujours gagner. Donc, en fait, si on met bout à bout les choses, c'est-à-dire que Yom Kippour, c'est un jour où le Satan n'a pas le droit d'être Mekatreg, il n'a pas le droit d'accuser. Parce que c'est l'impair de 365. Bon, avec 64, c'est tous des pairs. Et Yom Kippour, ce jour-là, il est spécifique. Qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est que ce jour-là, le Satan n'a pas le droit d'accuser. C'est Yom Kippour. Donc, ça veut dire la chose suivante. Pour ça, on va revenir un peu en arrière. Au moment de la destruction du premier Beth Amikdash, le Navi Yirmiya, il est allé réveiller en quelque sorte les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, pour leur dire, faites quelque chose. Hachem, il est en train de détruire le Beth Amikdash et d'exiler les Bnei Israël, faites quelque chose. Alors Abraham et Yaakov, ils ont répondu, bon, ils le méritent, etc. Ils n'ont rien fait. Et Yitzhak, il a commencé à négocier avec Hachem. Il a dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait comme si c'était tellement grave? Finalement, regardons une journée, il y a tant et tant d'heures qui sont consacrées au sommeil, à manger, etc. Donc, pendant ce temps-là, on ne peut pas de faute. Et après, il y a ceci, etc. Et puis, il dit, bon, là, il reste quoi? Il reste. Alors, tu sais quoi? Toi, tu prends la moitié et moi, je prends la moitié. Il a dit à Hachem, toi, tu prends la responsabilité de la moitié. D'accord? Et moi, je prends la moitié. Qu'est-ce que ça veut dire, toi, Palga alach et Palga alay, moitié, moitié. Alors, c'est un chazal, ça. Et ce chazal, il est expliqué de la manière suivante par Yitzhak Blazer. Yitzhak Blazer, c'est un des grands élèves de Rabbi Israël Salanter. Il était le grand rabbin de Saint-Pétersbourg et il a démissionné parce qu'il y avait trop de kavod et il s'est fait épicier. C'est un énorme tamid racham. Il a expliqué cette histoire de Yaakov, de Yitzhak. Vous vous souvenez probablement que à Rosh Hashanah, le personnage central, c'est Yitzhak Avinu. Le patriarche de Rosh Hashanah, c'est Yitzhak. Alors, il explique la chose de manière suivante. Il y a un chazal qui dit que Knesset Israël, les Bnei Israël disent, ils disent à Hachem, Retsoneinu lasot retsoncha. Notre volonté, c'est de faire ta volonté. Mais, à ce hors chebéissa, le shibud malchouyot, mais nous en sommes empêchés par deux choses, littéralement ça veut dire le levain dans la pâte, et deuxièmement, shibud malchouyot, c'est-à-dire les exils où nous sommes soumis au goyim. C'est ça qui nous empêche de faire vraiment ta volonté. En fait, ce Or Shebeïssa, c'est une expression qu'on utilise pour parler du Yetzirah. Le Yetzirah, c'est le levain qui fait gonfler la pâte. Le Yetzirah, c'est ce qui gonfle les choses. Et alors, Yaakov Avinu dit, en fait, le problème du Seor, c'est toi qui dois le régler, Hachem. Parce que s'il y a du Yetzera dans le monde, c'est à cause de toi. C'est toi qui as décidé. Donc ça, c'est la moitié qui est sur toi. L'autre moitié, Shibud Malchuyot, c'est ma faute. C'est à cause de moi. C'est parce que j'ai mal géré le problème des sages. Le galout par excellence, c'est celui dans lequel on est, le galout des saves. Alors ça, c'est sur moi. Donc c'est moi qui prends cette responsabilité. Donc, comme ça, on pardonne au Bnei Israël, toi tu le pardonnes à moitié, moi je prends l'autre moitié, comme ça, ça s'en va. Évidemment, ça n'a pas vraiment marché, puisque on s'est retrouvé quand même en galout. Mais en tout cas, il y a eu une proposition comme ça de Yitzhak Avinu. À Yom Kippour, Shebeïssa n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de Satan. Le Satan n'est pas Mekatreg, il n'y a pas de Yetzirah. À Purim, il n'y a pas de Shibud Malchuyot, parce que c'est marqué dans la Megillah, marqué que Venafal Pachad Ayehudim Alehem. Les goyim ont eu très très peur des Juifs. Quand les Juifs se sont mis à se défendre, quand ils ont compris que le grand vizir c'était Mordechai, du coup, qu'Aman était mort, etc., là ils ont eu une super trouille. Naval Pachad Ayodimaleem. Donc il n'y a plus de Shibud Malchuyot. Donc c'est ça l'idée, c'est que Kabbalat HaTorah, en réalité, ça fabrique Kippour et Purim, et c'est ça qui permet de servir Hachem. Le couple Purim-Kippourim, c'est un couple formidable qui permet de servir Hachem et de résoudre les deux problèmes qui nous empêchent vraiment de servir Hachem. C'est ça le moitié-moitié. C'est la même chose que ce qu'on a dit, le Marsita Shekel. C'est toutes ces questions de deux fois un, les deux couronnes, etc. Ça, c'est bien. Ça veut dire que Pourim complète Yom Kippour. Donc, elle comprend bien. Ce sont les Chachamim, Esther, Mordechai, qui ont décidé de faire Pourim, c'est-à-dire de compléter Kippourim. C'est-à-dire que tant que les Bnei Israël, tant qu'il n'y a pas eu Pourim, qui était peur bleue pour tous les Bnei Israël, bien sûr, mais il a. Non seulement on a échappé à ça, mais ça nous a donné bien plus, puisque ça a donné Purim qui a complété Kippourim. S'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu Purim et ça n'aurait pas complété Purim. Donc on n'aurait pas eu cette association complète entre Hachem et le clan Israël qui existe grâce au moitié pour Hachem et moitié pour le clan Israël. Alors, j'ai sauté quelque chose de très, très important dans toute cette histoire. J'ai sauté peut-être le plus important. Le grand vizir, Aman. Aman, c'est un descendant d'Amalek. Et du coup, le problème de détruire le clan Israël, qui est posé par Aman à l'époque du... Juste, on est entre les deux temples, hein. On est à Pourim entre les deux. On est après la destruction du premier, avant la construction du deuxième. Ce problème-là, qui se pose à ce moment-là, il est réminiscent d'un problème qui se pose depuis toujours. Depuis que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, il y a Amalek qui veut détruire le clan d'Israël. Alors Amalek, lui-même, le personnage Amalek, c'est le petit-fils d'Ésav. Or, Ésav, c'est celui qui veut faire échouer le projet de Yaakov. Donc Amalek, c'est la pointe avancée d'Ésav qui veut faire échouer le projet d'Israël en supprimant le problème, supprimant les Bnei Israël. On va éradiquer les Bnei Israël. Donc c'est un projet qui est là depuis la naissance du clan d'Israël. Et là, il prend de la vigueur. Alors, il a passé ce problème d'Amalek, il a passé par un moment très important. Vous vous souvenez que à l'époque des juges, à l'époque du prophète Shmuel, donc le dernier d'entre eux, le prophète Shmuel, il a oint le premier roi d'Israël, c'est-à-dire Shaoul. Et il aimait beaucoup Shaoul. Et à un moment donné, Hachem a ordonné à Shaoul d'aller faire la guerre contre Amalek. Amalek était un peuple à ce moment-là. On voit que c'est un peuple dont on nous dit qu'il était localisé à côté du peuple de Yitro. Après, on a dit aux gens le peuple de Yitro, mettez-vous à l'écart parce que on va s'attaquer à Amalek et vous allez prendre des balles perdues, quoi. Donc, mettez-vous, protégez-vous. Alors, il a oint Shaoul. Shaoul a reçu. Shaoul, c'était un super tzaddik. Ouais. Imaginez, il est roi d'Israël, bien que n'étant pas de la tribu royale. Shaoul, c'est un Binyamin, il est de la tribu de Binyamin, comme Mordechai et Esther d'ailleurs. Shaoul reçoit l'ordre de faire la guerre contre Amalek et d'éradiquer Amalek. Éradiquer Amalek, ça veut dire on tue tout le monde. Tout Amalek. Et on laisse rien. En particulier, on laisse pas les troupeaux d'Amalek. On laisse vivre personne. Alors, il y avait une discussion. C'est marqué Timchet Zecher Amalek. Mais il y avait une. Certains disent que Shaoul, il s'est trompé, il a lu, mais d'autres disent que même Shmuel, il disait non pas Timchet Zecher, mais Zachar Amalek. Il croyait qu'il fallait tuer seulement les hommes d'Amalek. En tout cas, Shaoul a fait la guerre, il a gagné la guerre, et il n'a pas tué tout le monde. En particulier, il n'a pas tué les troupeaux, et il n'a pas tué le roi. Il l'a fait prisonnier, mais il ne l'a pas tué. Et quand il est revenu de la guerre, Shmuel savait, parce qu'Hachem le lui avait dit, que c'était terminé avec l'épisode de Shaoul était terminé. Shaoul s'était disqualifié de cette manière-là et qu'on allait lui enlever la royauté et la donner à David. Et quand Shaoul revient de la guerre, Shmuel vient à sa rencontre et Shaoul dit à Shmuel, j'ai fait ce qu'Hachem m'a demandé. Shmuel, il est effondré parce que Shmuel, il aime beaucoup Shaoul. Toute la nuit, il a discuté avec Hachem pour essayer de sauver la tête de Shmuel, de Shaoul. Il n'a pas gagné. Et il a demandé, mais que ça veut dire, qu'est-ce que c'est ces troupeaux-là que j'entends? Il dit, ben oui, j'ai apporté ça pour faire des corbanotes pour Hachem. Et le roi, là, on va faire une grande cérémonie, on va lui couper la tête en public. Alors Shmuel lui a dit, mais qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois qu'Hachem, il préfère les corbanotes ou il préfère qu'on lui obéisse quand il a dit, il t'a dit de les tuer, il t'a pas dit qu'il voulait les corbanotes. Bon. Et du coup, Shaul, il a supplié Shmuel de... Mais ça n'a pas marché. Et donc Shaul a perdu la royauté à cet endroit-là. C'est absolument tragique, en fait. Et donc, c'est un épisode où on n'a pas éradiqué Amalek. David, ensuite, il n'a pas éradiqué non plus. Personne, on n'a jamais fini avec Amalek. Et tout à coup, arrive Amalek sous la forme de Aman. Alors, d'où il vient Aman? Aman, il vient de ce que, quand Shaoul n'a pas tué le roi était prisonnier, mais d'une manière ou d'une autre, il a réussi à avoir un rapport avec une femme. Il l'a mise enceinte. Et cette femme, fil en aiguille, elle a mis au monde une suite d'enfants. Alors, ou bien c'était une Amalécite parce que eux, ils ont lu Zahar et pas Zerher, donc on n'a pas tué les femmes. Ou bien, d'autres disent que, de toute manière, même s'il a eu un rapport, si le roi Agag, le roi des Amalécites, il a eu un rapport avec n'importe quel Goya, chez les Goïms, ça va d'après le père, donc les enfants sont des Amalek. Donc ça a mis en marche un processus qui aboutit finalement à Aman. Et c'est assez étrange parce que c'est difficile de comprendre comment Aman, qui est d'Amalek, mais Amalek c'est un Sémite, c'est un petit fils d'Essav. Mais les Perses, ce n'est pas des Sémites. Ni les Perses, ni les Mèdes, on dit que c'est les Kurdes, ni les Babyloniens, enfin, personne n'est sémite là-bas. Comment ça se fait que le chef de la noblesse, les nobles qui sont autour du roi de Perse, n'est pas perse? Il est d'origine vraiment étrangère, parce qu'il est d'origine sémite. Je sais pas, je n'ai pas vu qui que ce soit qui en parle. Veut dire qu'il a réussi à se faufiler, à se faire passer pour un noble. Comment il a fait? D'autant qu'en fait, il est... Alors, bon, là, c'est Aman. Et donc, Aman, il a décidé qu'il allait tuer tout le monde. Et puis, ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas? Ce qui marche pas, c'est que Mordechai, il a entendu cette histoire. Et Mordechai, il est allé chez la reine Esther, enfin, il a fait dire à Esther, il parle par l'entremise des esclaves d'Esther. Il a fait dire à Esther qu'elle devait intervenir auprès d'Ahasuéros pour y aller. Alors Esther, elle explique à Mordechai que Ahasuéros, c'est un cinglé. Bon, on voit très bien, il n'a pas de mesure. Pourquoi est-ce que Esther est devenue reine? Devenue reine parce que Achashverosh, dans un de ses festins qui dure 180 jours, une fois qu'il était complètement bourré, probablement, Il a décidé de faire venir Vashti. Vashti était très belle, mais lui, il lui a demandé de venir et de voulait la mettre debout sur les tables, mais il voulait la voir nue, montrer sa beauté. Vashti, qui est elle, c'est elle la descendante de nos grands desseins. Il lui a dit, non, ouais, pas question. Et donc, ben, il est dans Pétra. Parce que publiquement, il a été humilié par la reine. Il a quelque chose, il est perdu, quoi. Et bien entendu, il ne sait pas quoi faire. Alors, ici, c'est Aman. Aman va lui donner un conseil. Aman, il va lui dire, tue-la. Ton seul moyen, c'est de la tuer. Parce que si elle continue de vivre après t'avoir humilié, donc il la tue. Mais il la tue, tout ça se passe quasiment en état d'ébriété. Et quand il a fini de cuver son vin, qu'il se réveille, il n'a plus de reine. Alors il va pas chercher une reine. Il convoque toutes les jeunes filles. Si c'est seulement les filles du quartier de. Enfin, peu importe. Il va chercher un tout petit. Il va toutes les essayer. Il prendra celle qui lui plaira le mieux. Il a des rabatteurs partout. Des fois qu'il y avait une belle fille, hop, toc. Et donc, ce que je comprends pas très bien, c'est qu'a priori, il était intéressé uniquement par les jeunes filles. Et on a rapté aussi Esther, qui était une femme mariée. A priori, Esther, comme ça, Esther, elle est orpheline de père et de mère. Elle était recueillie par son nom, Mordechai. Et on nous dit que Mordechai, il a fait d'elle, il l'a prise, le bat. Bon, oui, il l'a adoptée comme fille, ça c'est tout à fait logique qu'un homme adopte sa fille comme sa nièce comme fille. Mais certains disent que le bat, faut pas lire le bat, mais le bait. Et bait, c'est la maison. C'est-à-dire, il l'a épousée. Il peut épouser sa nièce, on a le droit d'épouser sa nièce. Il ne peut pas épouser sa tante, mais sa nièce, on peut. Donc, il a épousé Esther. Donc, c'est une femme mariée. Comment ça se fait qu'elle est prise là-bas? Et non seulement elle est prise, mais c'est elle qui devient la reine. Ça veut dire d'être dans. C'est simplement. Être la reine, c'est seulement peut-être avoir un meilleur lit dans le harem, quoi. Et puis devoir. Bon. L'apparat et tout, mais. Et donc elle est coincée, elle est là-bas. Alors elle est la femme de Mordechai. Elle est l'épouse du roi de Perse. Alors ce roi de Perse, il a un harem suffisamment important. On peut pas le voir, même sa femme peut pas venir le voir. Il se prend pour Dieu. Ça veut dire que si tu viens le voir sans qu'il t'ait appelé, alors il a un sceptre. Ou bien il te touche avec son sceptre, alors tu vis. S'il ne te touche pas avec ton sceptre, tu meurs tout de suite. Tu es venu sans permission. Tu meurs. Alors Esther, elle dit à Mordechai, qui lui dit, va voir le roi. Elle lui dit, ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas appelé. Donc ça veut dire qu'il a dû tomber amoureux enfin, avoir plus de plaisir avec une autre. Donc il ne m'a pas appelé. Donc je ne peux pas y aller. Alors Mordechai, il dit quelque chose de très très dur. Moi, j'ai toujours pas digéré ce qu'il lui dit, qui lui fait un procès d'intention. Elle lui a seulement expliqué que bon, même si j'y vais, je risque de même pas pouvoir ouvrir la bouche, parce que s'il me touche pas avec son sceptre, je serai morte avant d'avoir ouvert la bouche. C'est ce qu'elle lui a dit, c'est tout. Et lui, il lui dit, si tu t'imagines que toute seule, toi, tu vas t'en sortir parce que tu es au palais et que nous, on va tous mourir, etc. Parce qu'il y a à cause de... Le salut, il va venir d'ailleurs. Et toi et la maison de ton père, vous serez perdus. Bon, d'abord, on ne comprend pas quand il dit, toi, la maison de ton père. La maison de son père, c'est lui. C'est Mordechai. Il n'y a personne dans la famille. Elle a perdu son père et sa mère. La maison de son père, les gens qui sont en famille avec son père, c'est lui. Et c'est Mordechai. Il lui dit, toi et toi, la maison de ton père, vous serez perdus. Et à part ça, il lui fait un procès d'intention. Elle n'a jamais dit qu'elle ne voulait pas y aller. Elle a dit qu'il n'y avait quasiment aucune chance, c'est tout. À ce moment-là, il y a un changement radical. Cette Esther, qui était une bonne petite fille, là, une bonne, gentille petite fille, elle devient la reine. Depuis ce moment-là, dans la Megillah, c'est elle qui commente. C'est elle qui dit à Mordechai et au Bnei Israël tout ce qu'ils doivent faire. C'est elle qui prend les initiatives. C'est elle qui dit qu'ils doivent jeûner. C'est elle qui décide qu'ils doivent jeûner, mais le problème, c'est que c'est Pessah. Et s'ils jeûnent, ils vont pas pouvoir faire Pessah. Ils vont pas manger d'amassa, ils jeûnent 3 jours. Elle décide, on jeûne. Supprimer Pessah. Elle n'a pas permis de manger du Hametz, parce qu'ils mangent rien du tout. Mais... Et elle décide, elle va y aller. Elle va chez le roi. Et tout se passe bien. Il la touche avec son sceptre. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Je te donne la moitié de mon royaume. Elle ne sait pas quoi répondre. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris. D'autres disent que, les kabbalistes, ils disent que elle savait qu'il allait se passer quelque chose, mais elle pensait que c'était pas encore le moment. Donc elle retarde au maximum le moment où elle va parler. Elle sait que il va y avoir un sauvetage et elle attend aussi longtemps que possible. Moi, j'avais compris que, enfin, compris. On peut interpréter comme on veut, mais ça change pas la halakha. Elle lui dit, écoute, demain, j'organise un pot pour toi, Aman et moi. Ça a l'air de... un truc. Elle est venue le voir, ça veut dire qu'elle veut une intimité avec lui. Qu'est-ce qu'il lui propose? Une intimité à trois? Avec Aman? Et Ahasvéros, il a déjà des soupçons. Éventuellement, Aman est la reine, éventuellement, il complote contre lui. Il n'a pas la conscience tranquille, donc il comprend pas. Et toute la nuit, il n'arrive pas à dormir. Il se demande, est-ce qu'ils vont me tuer? Qu'est-ce que c'est quoi? C'est un complot là? Ils vont être deux contre moi. Et il n'arrive pas à dormir et bon, alors comme à défaut de somnifère, il fait venir quelqu'un qui va lui lire, lui raconter des histoires. Il n'avait pas envie d'entendre les contes de mille et une nuits, je pense. Il se fait lire les archives. Aman, il a déjà complètement noyauté. Le lecteur attribué à, enfin, attaché à Achashverosh, c'est un fils d'Aman. Prend un rouleau des archives. Il ouvre. Ne plaît pas. Il ouvre, mais ça souffle tout le temps au même endroit. Et alors, Achashverosh, il s'impatiente. Il dit, alors, tu lis? Alors, il lit. Qu'est-ce qu'il lit? Il lit qu'il y a un jour, il y a eu deux types qui ont comploté contre le roi. Et la reine, elle a entendu. Elle a rapporté que l'information, elle venait du juif Mordechai, qui avait un complot, et on a attrapé les types et on les a tués. C'est ça qui est marqué. Quand le fils de Haman, il lit qu'on raconte quelque chose de bien de Mordechai, il veut pas lire ça, mais il peut pas lire autre chose. Alors il lit ça. Et alors, je vais redemander, alors qu'est-ce qu'on lui a donné comme récompense à ce juif qui a quand même sauvé la vie du roi? Ben, rien. Comment rien? Alors, Achashverosh, il est tellement doué, il n'a aucune idée de qu'est-ce qu'on pourrait bien donner comme récompense à quelqu'un qui a sauvé la vie du roi. À Louis XIV, comme ça, il lui aurait donné, je ne sais pas, un évêché ou un bataillon ou quelque chose. Lui, il n'a pas d'idée. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il n'a pas d'idée? Il demande qui est-ce qu'il y a dans l'antichambre? On est au milieu de la nuit. Hein. Il y a un man dans l'antichambre. Il est là. Alors, vous connaissez l'affaire, quoi. Alors, pourquoi un man est là? Parce que Haman, quand il est rentré chez lui la dernière fois, il a dit à sa femme, un peu plus de ce Mordechai, j'ai tout ce qu'il faut, mais je supporte pas ce type-là qui se présente pas devant moi. Alors sa femme, qui est toujours de bons conseils, elle lui a dit, tu sais quoi? Tu fais une potence de 50 amot, 25 mètres, hein? Au-dessus de tous les toits de Téhéran, quoi, de Ispahan, je sais pas. Et tu vas pendre Mordechai, c'est la potence. Comme ça, tout le monde le verra. Ah, super, bonne idée. Bon, mais il faut quand même que je demande la permission au roi. Alors, il lui dit, c'est quoi? C'est très important que ce soit toi qui lui parles le premier dans la journée. Parce qu'on sait jamais avec ces juifs. Peut-être qu'un juif viendra et il dira quelque chose de bien. Ensuite, tu pourras pas parler contre Mordechai. Et donc, c'est en se tenant que lui, il va, il s'installe dans l'antichambre. Il attend le réveil du roi pour être le premier à lui parler. Et quand Ahasvéros crie, il y a dans l'entrechambre, et on lui dit, les serviteurs disent, mais il y a Haman, alors qu'il entre. Et il lui dit, qu'il faut donner comme cadeau à quelqu'un qui a sauvé la vie du roi. Alors Haman, il n'a pas de doute là-dessus. Et qu'est-ce que le roi pourrait bien vouloir honorer, si ce n'est moi? Et lui, il a déjà tout, Aman. Il a tout sur le trône. Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, le roi, personne ne le connaît. Le roi, quand il passe sur son cheval, c'est à toute vitesse. Dans son carrosse, personne ne l'a jamais vu. Alors, ce qu'on va faire, il demande qu'on donne à cette personne, au cheval du roi, des vêtements royaux. Et qui est un des grands dignitaires du pays, qui marche au pas avec ce cheval. Et bon, il pense que lui va être dessus. Donc le peuple, il va voir les attributs royaux et la bouille d'Aman. Donc les gens, ils vont croire que c'est lui le roi. Super idée, n'est-ce pas? Il n'y a que Aman qui. Et Ahasvéros lui dit, à la grande stupeur de Aman, il lui dit, c'est quoi? Tu fais exactement tout ce que tu as dit. Tu changes rien du tout au juif Mordechai qui est à la porte du palais. Il fait ça. Et il se balade à travers toute la ville. Et sa fille, qui est certaine que celui qui est sur le cheval, c'est son père, et que le type qui est à côté, c'est Mordechai. Elle balance le pot de chambre familial qui atterrit sur la tête de son père. Et quand il relève, elle voit que c'est son père, elle se suicide. Rentre chez lui. Il a à peine le temps de se nettoyer un peu. Les gens viennent et disent, il faut aller au deuxième festin de deuxième pot d'Esther. On y va, et puis vous savez la suite, quoi. Seule chose qui est toujours importante, que j'ai déjà dit l'année dernière, et les autres années aussi, c'est qu'en réalité, quand Esther a parlé, elle a dit à Ahasvéros, qui lui demandait, est-ce que tu veux, je donnerai la moitié de mon royaume et tout. Elle dit, si c'était qu'une question d'argent, j'aurais rien dit, mais il y a un type qui a l'intention de me tuer, et de tuer toute ma famille et tout mon peuple. Et alors, Ahasvéroch, je ne sais pas si Ahasvéroch fait comme s'il savait pas, ou s'il sait vraiment pas, parce qu'il n'a pas surveillé ce que faisait exactement Aman. Il demande, mais qui c'est? Miouzé, qui c'est qui a eu la chutzpah de faire quelque chose comme ça? J'ai tué une partie de mon peuple? Enfin, ça m'appartient, sont mes sujets. Alors, Esther, elle a pointé du doigt l'auteur. Mais qui elle a pointé? Ahasvéroch. Parce que, comme je vous ai dit, les décrets, ils étaient signés de qui? D'Ahasvéroch. Le malheur Gabriel, il est venu. Il a tourné son bras pour pointer chez Aman. Imaginez ce qui serait passé si on n'avait pas dévié son bras. Aman, il aurait profité de ça pour tuer le roi. Après, il se serait retrouvé avec la reine. Mais il sait que la reine est juive. Donc, il va tuer la reine. Il va tuer tous les juifs. Donc, c'était encore pire que tout, quoi. Alors, personne ne sait que Esther a pointé du doigt Ahasvéroch. Bon. Moi, je le sais parce que c'est écrit dans le Midrash. Mais je crois qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont lu le Midrash. Donc, finalement, ça se sait. En tout cas, ce qui est important, c'est que Esther, elle ne peut pas se raconter. Elle a sauvé le peuple juif. Donc, c'est une façon de l'empêcher peut-être d'attraper la grosse tête. Voilà. Une histoire du pourri. S'il y a des questions, bon, je répondrai quand j'aurai bu un peu. Heureusement, il n'y a pas de questions, donc ça va. Vous souhaite la bonne soirée.
Oh yes, merci.
Merci.